Nous avons un programme de prédication pour enseigner au culte, dimanche après dimanche. Et il y a quelques semaines, c'était mon tour, et j'avais le chapitre 10 du livre des Actes, parce que nous avions décidé de relire ensemble ou d'étudier ensemble le dimanche matin le livre des Actes des apôtres. Des Actes de Jésus, excusez-moi. Si, si, dans vos Bibles, c'est marqué Actes des apôtres. Mais quand on lit l'évangile, quand on lit le début du livre, c'est marqué dans mon premier livre, je vous ai dit ce que Jésus a commencé à faire. Sous-entendu, ce que Jésus a continué à faire après. Donc c'est peut-être aussi les Actes de Jésus. Voilà, le chapitre 10. J'avais peut-être pas assez préparé à l'époque, il y a quelques semaines. J'avais l'impression que c'était un patchwork. Ouais, le patchwork, c'est plein de trucs. Il y a peut-être une cohérence, hein, mais c'est plein de trucs l'un à côté de l'autre. Et puis là, j'avais l'impression que j'avais besoin de retravailler, donc j'ai beaucoup réfléchi. Et je vous propose ce matin une version révisée. Mais ma mère disait toujours, c'est comme la choucroute. Quand c'est réchauffé, c'est meilleur. Voilà. Je vais lire dans le livre des Actes. Si vous voulez chercher, vous pouvez prendre le temps de chercher. Je vais attendre que vous trouviez. Le livre des Actes au chapitre 10. Alors, je lirai le dernier verset du chapitre 9 et ensuite tout le chapitre 10. Oui, parce que ce qui est important, c'est la lecture. Ce que je dis, c'est... De toute façon, hein, vous écoutez, vous analysez à la lumière de l'écriture, vous gardez que ce qui est bon. Actes 9... Verset 43. Pierre resta assez longtemps à Jaffa, chez un ouvrier sur cuir appelé Simon. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Il était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux. Avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa. » pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir, nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue, mange !» Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur, d'interdit, ni d'impur !» La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté au ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent, « Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ?» Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ?» Ils répondirent, « Nous avons de la nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et que tout le monde, que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a commandé de venir, de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre était entré, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je suis qu'un homme, moi aussi. » Puis tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il se trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger et à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, « Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes ici, tous ici, devant Dieu, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Pierre prit alors la parole et dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix, que Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes, vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix, mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. C'est une belle histoire. J'aime bien les histoires. Parce que dans les histoires, c'est pas comme dans les textes de loi où c'est des tu dois faire, tu dois faire, tu dois pas faire. Il y a des êtres humains qui vivent les choses. Avant de réfléchir à quelques idées pour nous aider dans notre témoignage de chrétien, j'aimerais quand même développer les 2 sujets que Luc aborde dans ce temps. Je vais essayer de faire vite et court pour que parce que j'aimerais quand même passer un peu plus de temps après sur les quelques idées pour nous aider dans notre témoignage. Et peut-être que les deux sujets qui sont, enfin les deux thèmes que Luc développe ici, qui sont dans son contexte, c'est la poursuite du plan du livre des Actes. Chapitre 1, versets 7 et 8. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et finalement, ce plan, c'est le plan du livre des Actes et on est dans une de ces étapes. Et puis, il y a toute cette question qui parcourt un peu le livre des Actes. Est-ce que le salut que Jésus offre et juste pour les juifs, ou est-ce que moi qui ne suis pas juif, j'ai aussi droit? On a vu tout à l'heure, hein, dans ce qui nous a été partagé pendant la présidence, que le projet de Dieu était pour tous les hommes. Et là, on voit que c'est pour tous les hommes. Mais voilà, donc au chapitre 2 de ce livre, on a cette première grande campagne d'évangélisation organisée par Dieu. Elle a lieu à Jérusalem. À la Pentecôte. Hein. Et ce jour-là, 3000 personnes croient. Incroyable. Vous imaginez 3000 personnes qui débarquent ici aujourd'hui? On croit. On veut suivre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on s'organise? Chapitre 5, le phénomène touche un peu les localités voisines, la Judée. L'Église grandit, commence à attirer un peu plus largement. Mais l'épicentre reste Jérusalem. Les croyants sont tous des juifs messianiques, des juifs qui ont cru que Jésus est le Messie. Alors les apôtres ont fait un bon travail d'enseignement, mais ça reste pour l'instant un peu bloqué autour de Jérusalem. Et Dieu va devoir pousser les choses pour que ça aille plus loin. J'ai envie de dire Dieu attise la persécution. Est-ce que c'est lui qui fait la persécution? Non. Mais il permet quand même cette persécution. Et puis donc, les chrétiens partent plus loin. Philippe, l'un des hommes choisis du chapitre 6, part en Samarie. Alors Samarie, c'est les frères ennemis, les demi-frères. C'est ceux qui... c'est historique, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire. Mais ils sont qu'à moitié juifs. Et pour les juifs, c'était un peu les traîtres. Et donc, il était impensable que les Samaritains aient aussi accès au salut. Et finalement, quand Philippe arrive là, il leur parle, il croit. À Jérusalem, on en entend parler, on dit, ah, faut qu'on aille voir. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ceux de Jérusalem, ils envoient Pierre et Jean. Pierre prie. Saint-Esprit descend. Même situation qu'à Jérusalem. Mêmes effets que lors de la Pentecôte. Je recherche où je suis dans mes notes. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Finalement, quand Pierre retourne à Jérusalem, on lui dit « Non, mais Pierre, qu'est-ce que tu as fait là ?» C'est pas moi, c'est Dieu. Et donc finalement on a ce salut qui est donné non seulement pour les juifs mais aussi pour les demi-frères. Pour reprendre une image de contemporaine, de littérature contemporaine, il y a les sangs purs puis il y a ceux de sang mêlé. Et puis est-ce que les non-juifs y ont droit aussi? Alors c'est l'étape suivante, c'est celle qu'on aborde aujourd'hui par notre texte. Jusqu'à maintenant, l'essentiel des croyants sont tous des juifs ou des samaritains. Mais Jésus n'est-il que pour les juifs et les samaritains? Quel espoir pour moi? Quel espoir pour nous? Là encore, Dieu doit un peu bousculer Pierre. Un peu. Alors, il y a eu la persécution, là, c'est pas la persécution. Mais il y a cette histoire de cette nappe. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais par trois fois, Dieu bouscule Pierre pour que Pierre aille plus loin. Ce que je constate, c'est que Dieu regarde au cœur des humains. Et là, il a vu le cœur de Corneille. Un homme qui croyait. Un homme qui cherchait. Un homme sincère. Un homme zélé. Et Dieu organise ce rendez-vous. Il préside ce rendez-vous de bout en bout. Et là encore, Dieu manifeste clairement son acceptation de ces personnes en envoyant son esprit. Là aussi, la manifestation est identique à la première fois comme à la Pentecôte. Symboliquement, c'est les premiers non-juifs. Alors bon, au chapitre 8, on a l'eunuque, le serviteur éthiopien qui est passé par là. Mais symboliquement, c'est les premiers. Symboliquement, c'est l'étape où on arrive au bout du monde. Non, c'est pas le bout du monde, là, c'est juste Césarée, c'est au bord de la Méditerranée, c'est pas le bout du monde. Mais symboliquement, théologiquement, c'est le bout du monde. Parce qu'on est parti des Juifs, on a eu des demi-frères, puis là, on a ceux qui sont non-Juifs. Pour reprendre mon image littéraire, les cent bourbes. On prenne ceux qui comprendront. Mais finalement, c'est pas une question de sang, c'est une question de foi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce qu'on est tous, finalement, après compris dans ce domaine-là, dans ces personnes qui sont non-juives. Là encore, il y a scandale à Jérusalem, Pierre doit s'expliquer au chapitre 11, etc. Dans la suite des actes, Luc va montrer comment on va aller jusqu'au bout du monde physiquement. Mais là, on est au bout du monde théologiquement. J'aimerais juste faire une pause là pour dire il y a une grande vérité là pour nous. Une grande vérité. On a vu tout à l'heure, dans ce que tu nous avais expliqué, ce désir de Dieu d'avoir des hommes qui soient ses représentants sur cette terre. Ce désir de Dieu d'avoir ce vis-à-vis. Et quand il a appelé Abraham, il a appelé un homme, il a appelé un peuple, mais pas pour que ce peuple soit le seul élu, mais pour qu'il soit l'exemple, pour qu'il soit celui qui transmette aux autres hommes. Et surtout pour qu'il soit ce peuple qui va recevoir le Messie, Jésus, qui va permettre ce salut pour tous les hommes. Dès l'origine, Dieu avait pour plan de sauver toute l'humanité, d'accorder le pardon à des personnes de toute l'humanité. Ici, nous avons la dernière grande étape de ce plan de salut vers les hommes. Je ne sais pas tout ce que Pierre a dit à Corneille. Là, on a un petit résumé dans ce passage. Mais en même temps, il a parlé de ce Jésus qui offre le pardon. Ces personnes ont reçu ce pardon. Et Dieu leur a accordé son esprit. C'est une bonne nouvelle. Et je veux juste vous dire, je ne sais pas où vous en êtes tous dans votre cheminement. Je ne sais pas quelle partie du chemin vous avez fait jusqu'à Dieu. Mais cette bonne nouvelle, c'est que toi, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quel que soit ton cheminement, tu peux avoir accès à ce pardon. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu veut t'accorder ce pardon. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça ne dépend pas de la loi. Parce que personne n'a réussi à vivre cette loi. Ça dépend juste de ta foi, de cette confiance, de cette recherche que tu as de Dieu, de cette possibilité de lui demander pardon. Jésus t'offre sa grâce, son pardon, si tu crois. Si tu as déjà fait ce chemin, tu es au bénéfice de la plus grande faveur, la plus extraordinaire des choses qui étaient données à l'humanité, qui en est à son bénéfice, glorifie Dieu. Tu imagines ce que Dieu a fait pour toi? On a revu ce passage, on a chanté des chants autour de ce sacrifice de Jésus. Dieu t'aime. Je dis, j'aime bien lire les histoires. Et puis, ce livre des Actes, c'est une histoire. Est-ce que vous avez déjà lu le livre des Actes comme une histoire? Ou est-ce que vous lisez juste la Bible comme certaines personnes? On vous envoie tel verset, puis tel verset, puis tel verset, puis on a juste des petits bouts comme ça, par-ci, par-là. Moi, j'aime bien lire de temps en temps l'histoire comme une histoire. Et donc là, ça permet de mettre de la chair sur les vérités théologiques. Et donc, je pense qu'il y a deux, trois choses à apprendre sur le comportement de Pierre, sur ce qu'a fait Corneille. La première idée que j'aimerais développer, c'est les préjugés de Pierre. Je suis passé assez rapidement sur cette histoire de la nappe qui descend du ciel. Alors, il y a un enjeu entre juifs et non-juifs. Il y a la question de cet orgueil du peuple juif. Mais c'est tout de même un grand enjeu qui s'est joué à ce moment-là chez Pierre. Pierre est un juif. Il a baigné toute sa vie dans cette culture juive. Depuis tout petit, on lui dit « Nous sommes le peuple élu ». Il a reçu ça dans son biberon. Il l'a avalé à l'école. Il a appris tous les codes de vie qui sont liés à ça. Il n'a jamais mangé un bon filet mignon de porc au mori. Moi, je dis ça parce que c'était un des repas que ma mère faisait qui était tellement bon. Il n'a jamais mangé un plat de fruits de mer, fraîchement pêché. Là, je viens de Suisse et puis on n'a pas de mer en Suisse, donc ce n'est pas tellement pour moi que je dis, peut-être vous aimez les fruits de mer. Il n'est jamais entré chez un non-juif pour manger avec lui. C'est un juif, un vrai. Il a vécu comme faisant partie d'un peuple à part des autres peuples. Certes, ça fait 4 ou 5 ans qu'il suit Jésus, hein, mais il n'a pas totalement changé. Et voilà que Dieu vient le bousculer dans ses convictions les plus profondes, celles qui sont ancrées en lui depuis son enfance, celles qu'il a apprises depuis qu'il a appris à marcher, depuis qu'il a appris à parler. Une nappe descend du ciel et une voix le pousse au-delà de ses limites personnelles. Heureusement, il a la bonne attitude, il se met à réfléchir au sens de cette vision. Et finalement, avec la suite des événements, il comprend le message et se rend chez Corneille. Dieu a réussi à faire tomber ses préjugés et Pierre est passé par-dessus. C'est une victoire pour Dieu, c'est une victoire pour l'Église, pour la bonne nouvelle de l'Évangile, et Corneille entend le message. Et puis des fois, nous, baignés de 2000 ans de christianisme, on se dit « Oui, mais comment est-ce que Dieu... Comment est-ce que Pierre a dû attendre si longtemps pour comprendre ?» Oui, mais nous, on a de la République dans le sang depuis tout petit. Notre façon de penser est complètement différente. On n'a peut-être pas les mêmes préjugés, mais on a peut-être d'autres préjugés. Nous avons notre façon de penser. Pas toujours accordé avec celle de Dieu. Nous pouvons aussi facilement tomber dans ce travers qui est l'orgueil. Au-delà de la fracture juif et non-juif, il existe d'autres fractures tentantes. On se considère alors comme des personnes bien, contrairement à ceux-là qui sont moins bien. Enfin, ceux-là ou ceux-là, je sais pas, d'un côté ou de l'autre. Je parle pas de vous, hein. Ça peut être une question d'origine, ça peut être une question de façon de penser, ça peut être de milieu social, de handicap, de toutes sortes de choses. Il y a tous les préjugés liés aussi à notre éducation, république ou évangélique. parce qu'on a une éducation évangélique. Et des fois, oh non, non, chez eux, je peux pas aller. Hein. Vous imaginez pas quand même. Il y a quelques années, j'étais invité chez la personne qui m'a, quand j'étais en région comme stagiaire en région parisienne, j'avais comme pour loger une chambre de bonne. Alors, c'était une petite chambre, voilà. Et ma propriétaire, un jour, elle m'a invité. Et j'ai su quelques semaines avant qu'en fait, c'était la voyante du maire. Est-ce que je peux aller manger chez la voyante? Je n'ai discuté avec mon maître de stage, hein, parce que c'est quand même, je craignais un petit peu. Puis j'allais manger chez des amis qui ont pour déco des bouddhas un peu partout. Puis j'acceptais ces gâteaux que m'offre ma voisine musulmane, parce que c'est la fête de l'Aïd. Une grande leçon de ce texte est certainement, est-ce que je suis capable de passer par-dessus mes préjugés pour témoigner. C'est pas facile. Et je suis conscient que pour moi, c'est pas toujours facile. Dieu doit parfois nous envoyer des nappes, comme pour Pierre. Tu manges. Enfin, c'est pas toujours des animaux, c'est parfois d'autres choses. Mais passer par-dessus nos préjugés. Je me souviens une fois d'un copain d'école, quand j'étais à l'école d'ingénieur. Et puis on jouait à un jeu vidéo, et puis je sais pas, puis j'ai dit ouais non mais moi je fais pas ça comme ça parce que je pense que c'est mieux de le faire autrement. Puis il me dit toi, un chrétien, tu penses que la corruption c'est mieux que la guerre? C'était la question, est-ce que pour conquérir une ville dans ce jeu vidéo, c'est qu'un jeu vidéo, hein, est-ce que j'utilise les armes ou est-ce que j'utilise un diplomate qui va soudoyer les responsables? C'est un jeu très intéressant. Hein. Il me dit, mais toi, tu fais ça, un chrétien? D'accord. Est-ce que je suis capable de passer par-dessus mes préjugés pour aller auprès des autres. Sachons faire la différence entre nos règles et celles de Dieu. Pour moi, c'est toujours un défi. Mais Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde, même au-delà de tes préjugés. La deuxième idée qui m'a travaillé dans ce texte, c'est, et j'aimerais m'arrêter quelques instants pour réfléchir sur le personnage de Corneille. J'ai dit c'est un non-juif. Alors c'est court un non-juif. Hein. On est tous des non-juifs. Mais Corneille c'est aussi un soldat, un capitaine, un centenier. Un gars qui avait 100 hommes sous ses ordres. 100 hommes, pardon. Ça c'est la bonne liaison. Dans le bataillon italien, c'est pas un mercenaire, c'est un gars convaincu. Un italien, un romain, qui est parti à la guerre parce qu'il était convaincu. Certainement un soldat capable. C'est pas un cœur tendre. C'est pas un romantique. Il est envoyé à Césarée en tant qu'occupant. Ouais, c'est pas forcément le plus facile pour avoir une relation avec les occupés. Ça devait peut-être parfois être un peu rugueux. Hein. Mais cet homme semble malgré tout être un homme bien ou de bien. Tout militaire qu'il est, c'est pas une tête brûlée, mais quelqu'un qui a une éthique de vie. Luc le présente comme quelqu'un qui a découvert la foi des Juifs et qui s'est intéressé à rechercher Dieu. Il nous a dit qu'il est entouré de sa famille. Est-ce qu'on pouvait prendre sa femme et ses enfants avec soi à la guerre? Je sais pas. En tout cas, il y a sa maison avec ses servantes et ses serviteurs. Il semble être là depuis quelque temps. Peut-être un début d'intégration. Je vois dans cet homme un homme né loin de Dieu, mais un homme qui cherche Dieu. Une démarche sincère. Quels sont les événements de sa vie qui ont conduit à cette situation? Pour nous, le mystère demeure. Mais Dieu qui a vu dans les cœurs, a vu sa sincérité, a vu son zèle, a vu sa démarche. Ok, il a utilisé les grands moyens et Dieu n'utilise pas toujours des moyens aussi grands pour nous envoyer vers nos voisins. Mais Dieu aimerait qu'on aille aussi vers nos voisins. Ça m'a fait réfléchir à ceux qui m'entourent. Je suis conscient du privilège que j'ai, moi, d'avoir accès à ce salut extraordinaire. On en a parlé déjà en long et en large, je ne vais pas revenir. Et bien sûr, j'ai le souci de partager ça à mes voisins, à mes amis, à ceux qui me sont chers, et un peu au-delà. Parce que Dieu me le demande. Parce que c'est infernal comme situation de ne pas le connaître. Mais ai-je la bonne façon d'aborder mes amis quand je désire partager l'évangile? Ici, Dieu organise une rencontre entre Pierre et Corneille. Je ne sais pas si vous avez noté, mais Pierre, la première chose qu'il fait, c'est « Bon, je suis venu, ok, parce que Dieu m'a convaincu que je devais venir. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Pourquoi est-ce que tu m'as invité ?» Nous, on arrive avec notre 4 lois spirituelles. Voilà, pour connaître Dieu, il faut ceci, il faut cela. Ou bien on arrive avec la méthode, je sais pas, les sept signes de Jean, on arrive avec nos méthodes. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter, de s'arrêter, de lui demander où est-ce que tu en es toi? J'aime bien écouter les témoignages des personnes, des chrétiens, pour savoir comment ils ont cheminé jusqu'à trouver l'évangile. Parce que quand on écoute leur cheminement, on se rend compte qu'ils ont fait parfois un peu des travers, et puis ils sont revenus vers Dieu. Et puis on a besoin aussi d'écouter qu'on a besoin d'écouter comment les gens cheminent pour pouvoir leur partager l'évangile. Pour comprendre où ils en sont, pour chercher ceux qui cherchent vraiment. Il y a toujours des discuteurs. Vous avez peut-être des gens comme ça autour de vous. Quand on parle tout à coup qu'on arrive sur le sujet, alors ils se mettent tout de suite à discuter. Et en fait, ils veulent pas avancer. Ils veulent exprimer leur point de vue et puis écouter votre point de vue et puis on confronte les points de vue. Je dis pas qu'il faut pas discuter avec eux. Mais je suis pas forcément frustré quand de toute façon ça va pas plus loin. Mais est-ce que je demande à Dieu de m'aider à discerner qui sont ceux qui sont en recherche? Sachons reconnaître ceux qui ont une recherche authentique de Dieu. Quand on a discerné quelqu'un comme ça, prenons le temps avec lui pour l'écouter, pour aller plus loin. Chercher comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider à faire un pas de plus. C'est important de prendre du temps avec des amis, de les accompagner dans leur cheminement. Parce que des fois, on aimerait calquer leur cheminement sur notre cheminement. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, puis tu dois faire comme ça. Alors je dis ça, hein, parce que je l'ai réfléchi. Puis dans la vie, c'est pas toujours aussi facile de faire comme je dis. Faites comme je dis, pas comme je fais. Mais ça demande de passer du temps avec eux. Pierre est resté quelques jours avec eux. Deux dernières petites remarques. La première, c'est, je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas Corneille qui est venu chez Pierre. C'est Pierre qui est allé chez Corneille. Ça peut paraître tout bête. Mais souvent, nous, quand on pense évangélisation, on dit, il faut faire venir les gens au culte. Le culte, c'est pas l'église. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est les hommes. Et quand l'église, elle est partie dans son travail, dans sa semaine, elle est toujours l'église, même si elle est dispersée, c'est toujours l'église. L'église va aux gens. Pierre va chez Corneille. Alors, il y a eu quelques soucis pour y aller parce que pour lui c'était impossible au départ. Mais Jésus, lui, il est venu dans le monde. Il n'est pas juste resté là-haut et puis il nous a dit, venez, faites tous vos efforts pour monter. Il a dit, non, je suis venu. Dieu s'est incarné en Jésus. Sommes-nous prêts à passer par-dessus nos préjugés pour nous intégrer dans la vie, enfin, aller à la rencontre de ce monde? On a reproché à Jésus d'aller à la rencontre des gens et de manger avec eux. Plusieurs fois, on lui a dit, mais Jésus, ça va pas, là, tu manges avec... T'as regardé avec qui tu manges? Il y a des traîtres, il y a des prostituées, Et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. C'est les hommes qui sont dans le péché qui ont besoin d'un sauveur. Suis-je prêt à aller au cinéma avec un ami, faire partie d'une association, pour être en contact avec des amis, à sortir, aller à un anniversaire, faire un bowling avec des amis, partir en vacances? Je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les personnes. Vivre avec eux. Et puis la dernière idée, c'est Dieu a organisé ce rendez-vous. Est-ce que je considère parfois, en regardant autour de moi, en regardant les événements de ma vie, que Dieu peut de temps en temps organiser des rendez-vous avec certaines personnes? Mais pourquoi est-ce que tout à coup je me retrouve... Je vous donne un exemple. Il y a pendant plusieurs années, j'ai été responsable d'une action d'aide alimentaire à Firminy. Et puis suite à tout cela, on a dû tout arrêter pour X raisons. Suite à tout cela, tout à coup, il y a un gars qui vient vers moi puis qui me dit, écoute, j'ai pensé à toi, je cherche quelqu'un pour me donner un coup de main au Resto du Cœur parce que t'as de l'expérience et puis on m'a demandé une responsabilité, mais moi je suis pas prêt à la prendre tout seul. Est-ce que tu es d'accord de venir avec moi pour voir si on peut prendre la chose ensemble? Oui, et je suis parti. Je suis maintenant bénévole au Resto du Cœur. Mais parce que je pense que Dieu a organisé ce rendez-vous et permet que ça puisse aller plus loin. Peut-être pas pour les Restos du Cœur, mais pour lui en tout cas. Et pour une autre personne, parce que j'ai rencontré une autre personne qui est en chemin dans les Restos du Cœur. J'aimerais juste conclure par une expérience. J'ai introduit par cette expérience à Cône-sur-Loire, où finalement je me suis posé plein de questions suite à ces actions d'évangélisation. Actions d'évangélisation. Il y a environ 20 ans, c'était quelques années avant, j'étais en région parisienne et je tenais le stand Bible au marché. Pendant des années, j'ai tenu le stand Bible au marché. Et puis, à un moment donné, le responsable du marché m'a proposé une place, parce que c'est la place que personne ne voulait. C'est celle qui était juste à côté du marchand de poulet. C'est bien d'être à côté du marchand de poulet parce qu'il fait chaud. Mais le poulet, ça projette de la matière grasse, et donc les Bibles prenaient le gras. Donc je mettais un plastique par-dessus mes Bibles pour éviter que les gens, quand ils achètent la Bible, ils n'achètent pas l'odeur du poulet avec. Mais finalement, d'être tout le temps à côté de ce marchand, ça a permis de discuter avec cet homme, avec ce couple, parce qu'ils étaient, c'était un couple. J'ai pris du temps à discuter avec eux. J'étais invité à la maison. Lui voulait me montrer son travail. Je suis allé un matin à 4 heures à Rungis pour voir comment il allait acheter ses poulets. Un jour, il vient vers moi puis il me dit, vous faites des colonies de vacances, vous, dans vos églises. Je dis, ma fille, j'aimerais l'envoyer en colonie de vacances. Et là, aller faire une colonie de vacances chrétienne. Un jour, je suis allé à Poitiers avec la famille pour aller au Futuroscope. On a passé deux jours comme ça. Mais l'occasion de discuter, l'occasion d'avoir une relation. Quand j'ai quitté la région parisienne, c'est lui qui est venu avec ses deux camions. On a chargé ses deux camions pour faire le déménagement. Malheureusement, j'ai quitté la région parisienne et j'ai perdu un peu le contact. Sont-ils devenus chrétiens? Ça reste toujours un sujet de prière pour moi. Peut-être n'ai-je pas été assez intentionnel pour parler de l'évangile un peu plus. Peut-être Dieu avait son chemin avec eux autrement. Maintenant, on recommence l'histoire avec un autre couple qui est des voisins de chez nous. C'est intéressant, on commençait de discuter comme ça, puis tout à coup, elle nous a parlé de l'évangile, enfin de sa recherche de Dieu, elle. Et puis, depuis quelque temps, Priscilla va se balader de temps en temps avec elle. Et dans la discussion récemment, est arrivé de nouveau le sujet de la foi. Priscilla lui a posé la question, est-ce que ça t'intéresse ? Aimé, il aimerait bien faire un groupe de découverte de l'évangile. Est-ce que ça t'intéresse de participer ? Oui, ça m'intéresse. C'est encore un sujet de prière. Mais je pense qu'on doit prendre le temps d'investir du temps avec les gens autour de nous. Et pas juste aller dans la rue, distribuer des tracts. C'est bien, ça fait aussi. On l'a fait à Cône, hein. Je dis pas que ça fait pas. Dieu utilise toutes choses. Mais je trouve intéressant de prendre le temps avec les gens et de parfois passer par-dessus nos préjugés. Je priais. On a tous, Seigneur, ce désir de partager ce cadeau tellement incroyable que tu nous as fait. De nous pardonner et de nous accueillir dans ta présence. Déjà maintenant et pour l'éternité. Mais Seigneur, on est parfois très gauche dans nos relations. En tout cas, moi, je suis très gauche dans mes relations. Seigneur, donne-nous de savoir prendre le temps avec les gens. Donne-nous d'être à leur écoute. Donne-nous de passer par-dessus nos préjugés pour transmettre cet amour tellement merveilleux que tu nous as donné. Amen. Que Dieu bénisse votre témoignage.